podcasts de Radio Vatican.
Sur les 65 millions de réfugiés que comptait le monde en 2015, moins de 10% ont été accueillis par l'Union européenne. Certains États membres s'y refusent, construisent parfois des murs comme la Hongrie et proposent de verser des contributions financières à leurs partenaires européens les plus exposés à l'arrivée des migrants, Malte, la Grèce et l'Italie, qui sont responsables, conformément au règlement de Dublin, des demandes d'asile des migrants qui ont débarqué sur leur sol. En 2016, 180 000 personnes sont arrivées sur les côtes italiennes. Près de 100 000 d'entre elles ont demandé l'asile. Comment l'Italie prend en charge ces personnes, hommes, femmes et enfants? C'est la question posée à Maurizio Ambrosini, professeur de sociologie des migrations à l'université de Milan. Il revient tout d'abord sur une idée reçue européenne et même italienne. En Italie, la très grande majorité des migrants ne sont pas africains et n'ont pas débarqué à Lampedusa. Maurizio Ambrosini s'est interrogé par Marie Duhamel.
Tout le monde aussi dans mon pays pense que les immigrés sont des Africains qui arrivent en bateau sur les côtes italiennes, surtout à l'île symbole de Lampedusa. Mais en réalité, en Italie, il y a 5 500 000 immigrés qui sont pour la plupart des femmes européennes et qui viennent de pays de tradition culturelle chrétienne. Les demandeurs d'asile et réfugiés sont environ 180 000 sur 5 millions et demi. Donc il y a un énorme décalage entre la réalité de l'immigration, la réalité statistique et sociale et ses représentations médiatiques, culturelles. Ces représentations sont dominées par l'anxiété, par la peur de l'invasion, par l'idée que nous allons prendre en charge toute la misère du monde, mais c'est absolument décalé de la réalité.
Et est-ce que ces femmes européennes donc sont dans la légalité?
La plupart sont des femmes, des migrants irréguliers, employés par des familles italiennes. Qui ne sont pas considérés ni des clandestins, ni des migrants, qui peuvent circuler librement dans les parcs de la ville, au supermarché, s'ils accompagnent des personnes âgées, comme la plupart d'entre eux. Il n'y a aucun fonctionnaire ou agent de police qui les agace pour leur demander des papiers.
Ce qui est le cas avec les personnes d'origine africaine, pourquoi est-ce qu'on les laisse en paix, ces femmes?
Il y a une impression d'utilité de certains migrants, ces femmes qui travaillent pour les familles italiennes, qui fait que les familles les protègent, les acceptent, ils ont un toit, parce qu'ils vivent avec les familles italiennes, avec ces personnes âgées. Et personne ne se préoccupe de leurs conditions légales. Ils n'ont pas de droits légaux ou des droits légaux limités, il faut dire, des soins médicaux en cas d'urgence, par exemple.
Donc tout dépend de la bonne volonté ou du bon comportement de leur patron.
Oui, il y a des conditions très différentes, bien entendu. Il y a des familles qui les traitent mal, il y en a d'autres qui les traitent bien. Et en principe, c'est une relation, si vous voulez, des patronages, une relation du type pré-moderne, où l'employeur est un peu le patron, un peu le protecteur de ces femmes.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des risques de perdre son emploi du jour au lendemain ou encore d'esclavage?
Bien sûr. Et s'il perd l'emploi, il perd le toit, il perd la nourriture, et donc c'est une condition très précaire, très faible, sans doute. Mais une condition meilleure des migrants qui n'ont pas de protection, qui par exemple sortent des dispositifs de l'asile, parce qu'ils reçoivent une réponse négative, mais aussi s'ils reçoivent une réponse positive, c'est un peu paradoxal, mais ils reçoivent leur papier, mais ce n'est pas donné qu'ils reçoivent des services, qu'ils reçoivent un toit, qu'ils reçoivent des ressources pour l'insertion. La plupart sont jetés dans la rue, même s'ils reçoivent une réponse positive de l'État à leur demande d'asile.
Finalement, c'est quoi le parcours classique d'un migrant en Italie?
C'est un peu le parcours normal d'un immigré en Italie, d'arriver en réalité pour la plupart régulièrement, avec des visas touristiques par exemple, après de passer par une période d'irrégularité et enfin de devenir légal par une loi de régularisation. En Italie, on a fait 7 loi de régularisation en 25 ans. Les demandeurs d'asile, dans le passé, ont suivi le même parcours. C'était plus facile pour eux de se régulariser comme travailleurs par une loi de régularisation que par la démarche bien plus compliquée de l'asile.
En 2016, sur 180 000 personnes arrivées par la mer, 100 000 ont demandé asile en Italie, beaucoup plus qu'avant, puisque les frontières sont fermées au niveau des Alpes. Qu'est-ce que l'État prévoit pour les intégrer ?
Pour les demandeurs d'asile, l'État italien a en gros deux systèmes. Un système plus développé qui est géré directement par l'État en collaboration avec les autorités locales et avec des coopératives et des forces du troisième secteur. Et là, il y a les expériences meilleures d'insertion, de formation, de protection de la santé, d'animation, de socialisation. Mais ils sont environ 20 000 les places qui sont mises à disposition par l'État, parce que surtout les autorités locales résistent et ne coopèrent pas volontiers à ces projets. Alors, la partie la plus grande des demandeurs d'asile sont reçus dans des centres d'accueil extraordinaires, gérés par plusieurs sujets, des employeurs du secteur de l'hôtellerie, par exemple. Mais la plupart sont des coopératives, des sujets du troisième secteur. Dans ce panorama, il y a des expériences très diversifiées.
Par exemple ?
Il y a eu plusieurs dénonciations de gestion de l'accueil qui n'est pas au niveau qui est demandé par l'État. Ce sont les préfectures qui doivent choisir ces structures et qui doivent contrôler la qualité de l'accueil qui est réservé aux demandeurs d'asile. Mais les préfectures agissent sur un plan d'urgence et donc forcées à choisir n'importe qui met à disposition des structures d'accueil. Pour la plupart, des hôtels qui ne sont plus rentables dans des localités de vacances, mais qui sont en déclin du point de vue touristique. Il y a aussi des expériences positives. Je connais des coopératives dans lesquelles les réfugiés qui ont une expérience plus longue, qui ont appris l'italien, qui ont des compétences, deviennent des professionnels de l'accueil, de l'accompagnement de nouveaux arrivés. Il y a une coopérative qui met à disposition une partie de l'argent qu'elle reçoit par l'État pour financer des bourses d'insertion au travail des demandeurs d'asile. Il y a des coopératives qui organisent des équipes de football et qui font participer les demandeurs d'asile au championnat avec les équipes du territoire.
Et qu'est-ce qu'on fait des déboutés du droit d'asile ? Est-ce que c'est ceux-là qu'on voit dans la rue en train de demander sac à main ou demander l'aumône ?
Leur demande n'a pas été acceptée, mais l'État n'est pas capable de les expulser. Et il y a aussi souvent des conditions dans leur pays d'origine qui ne permettent pas l'expulsion par un État démocratique. Et donc ils sont jetés dans la rue, ils n'ont aucune forme d'assistance. Leurs ressources sont faire la manche, dans les meilleurs des cas. Dans d'autres cas, c'est l'exploitation, par exemple dans les champs de l'agriculture méditerranéenne, exploitée dans la prostitution ou dans des activités illégales, peut être aussi une alternative.
On discute, me semble-t-il, pour eux, de visa humanitaire.
Les demandeurs d'asile arrivés surtout de la Tunisie en 2011, avant une certaine date, ont obtenu tous un visa humanitaire, qui est la forme de protection la plus faible, mais qui est en tout cas un statut légal. Et maintenant, il y a une discussion pour faire quelque chose de la même sorte pour ceux qui n'ont pas proprement un droit à l'asile, mais ils sont ici depuis 2 ans, 3 ans. Ils ont suivi des cours d'italien, ils ont suivi de la formation professionnelle, parfois ils ont obtenu un emploi ou des bourses de travail pour l'insertion. Et donc on voudrait passer dans un statut légal au moins les migrants qui ont fait des efforts d'insertion. Et je pense que c'est plus logique, en tout cas, que de les jeter dans la rue sans avoir en réalité la capacité de les déporter vers des pays qui ne sont pas en condition de les recevoir.
L'Italie n'a pas été frappée par des actes terroristes, cependant ça a été le cas dans des pays frontaliers. Il y a donc une certaine appréhension vis-à-vis des migrants, notamment des migrants qui sont arrivés par la mer. Est-ce que la volonté politique aujourd'hui en Italie penche plutôt du côté de l'intégration ou plutôt du côté de l'expulsion, même si elle n'en a pas toujours les moyens ?
L'Italie est un pays compliqué, très articulé. Il y a des forces qui poussent pour l'expulsion ou pour l'exclusion des migrants perçus comme dangereux. Mais il y a aussi une société civile très forte, très vive. Et ici, les organisations catholiques sont très actives. Et par exemple, à Milan, il y a un réseau d'associations qui, avec des médecins volontaires, soignent les migrants irréguliers avec des équipements de haut niveau. Un autre exemple est l'enseignement de la langue italienne. J'ai participé il y a quelque temps à une cérémonie à l'hôtel de ville de Milan, dans la salle la plus solennelle, où on a donné un prix à un réseau école sans permission. Un réseau qui a comme mission d'apprendre l'italienne aux migrants qui n'ont pas de visa et qui ne peuvent pas aller aux écoles de l'État. Et donc, il y a ces deux Italies qui se confrontent, se mêlent parfois. Et si il y a, quand on parle d'immigration au point de vue plus abstrait, il y a une prévalence sûrement d'une vision défensive, une vision qui pousse pour l'expulsion. De l'autre côté, quand on commence à parler des migrants qui ont un visage, qui ont une histoire, qui ont un nom, qui ont parfois une famille avec eux, les choses changent. Et la société civile italienne est plus tolérante et même plus solidaire de ce que la politique pense.
Mais du coup, c'est pas un peu paradoxal que l'État récompense des associations qui font le travail que lui-même ne fait pas ?
C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'un État doit avoir des frontières et donc doit affirmer son droit souverain en distinguant les étrangers autorisés et les étrangers qui ne le sont pas. Mais en même temps, un État qui est conscient de ses devoirs à l'égard de sa population, c'est aussi qu'avoir des gens qui circulent dans les rues et qui ne sont pas soignés s'ils sont malades, ou qui travaillent dans des familles italiennes, ou même dans des chantiers, du bâtiment par exemple, sans connaître l'italienne, ce sont des situations dangereuses, ce sont des souffrances inutiles pour tout le monde. Et alors, c'est aussi une mesure de sagesse d'autoriser et en quelque sorte de soutenir des associations qui font cette partie du travail que l'État fait être nécessaire, mais qui ne peut pas faire directement.